Vous écoutez
RMC.
RMC.
I will be the coach of Lille next year.
So we know the possibility. It's not only physical.
I come with really, really pleasure. It's really bizarre.
No, me, in general, you know. No, me. I'm in PSG. I'm really happy. I will finish the season.
We have some changes. We didn't score. This team were waiting. And after, we are not marking.
RMC, l'after foot.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous. C'est oui, l'After est là, comme tous les soirs jusqu'à minuit, à la radio sur RMC, à la télé sur After Foot TV. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Flo Gautreau est là ce soir. Salut Flo.
Salut à tous.
Daniel Riello est là également ce soir. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Maxime Chano est là ce soir aussi.
Oh, avec une grande voix. Hein. Tu m'as présenté.
C'est l'équipe salut de Valenciennes. Hein.
Salut à tous. Ouais,
hein. Vous êtes là les gars.
Ouais, c'est quoi le nouveau?
Ouais, je dis à Flo.
Ah oui, ils ont un retour.
On aurait pu ne pas faire.
Oui, effectivement, j'ai appris ça.
Je pense que Flo Gautreau m'en doit une belle. Si j'avais pas été très mal, habile de mes mains.
Petit incident sur la route. Ouais.
Je pense qu'on n'avait pas
Flo ce soir. Tu m'en donnes une belle, mais moi, j'aurais peut-être carrément évité l'engin. Quoi.
Ah ouais, tout à fait. Petit incident sans conséquence, voilà. Heureusement. Voilà.
Je prends la responsabilité.
Retour de Valenciennes hier pour la dernière date de la tournée des 20 ans de l'After. Ce soir, les amis, attention, un grand retour. Le retour du fils prodigue. Un grand ami de l'After est avec nous. Il nous a lâché en 2020 pour un petit club, un petit banc, l'AS Monaco. Damien Perinel est dans l'After. Salut Damien.
Eh, bonsoir à tous.
Oh, le retour de Damien Perinel.
Ça fait bien plaisir de vous retrouver en tout cas.
On est content de t'avoir avec nous. Je rappelle quand même, pour ceux qui nous ont rejoints il y a quelques mois, quelques années seulement, Damien, c'est parti de la bande, toujours hein, de l'After pendant des années, avant de mener sa carrière d'entraîneur à Monaco. 6 ans à la Turbie, adjoint d'abord.
Adjoint de Kovac.
Kovac. C'est ça.
Peter. Philippe Clément.
T'as pris en main la réserve de Monaco. Exactement. Puis après adjoint numéro 1, Kovac.
Et après
Clément.
Après Adi.
Hutter.
Et puis
Pocognoli. C'est celui qui a résisté à tous ces gars.
Ouais, ça fait beaucoup de Belges.
Hein. Survivant à la fin, mais il en restait un. Voilà.
Cela dit, le simple fait de, ça on le dit souvent, mais de survivre alors qu'il y a des changements de coach, c'est plutôt positif pour toi. Parce que ils peuvent arriver avec un staff à eux, ils peuvent dégager tout le monde.
Bah, de survivre dans un club comme Monaco où l'exigence est très haute. Bah non, bien sûr que c'est une fierté. Et puis de pouvoir amener même ses compétences à de nouveaux entraîneurs, à de nouveaux staffs, c'est un plaisir, c'est valorisant, je trouve.
C'est valorisant. Pourquoi tu quittes Monaco? Tu vas en parler dans un instant, bien sûr. Tu es enfin libre de tout nous dire. Tu vas balancer sur l'ESM. Je plaisante, Damien. On a des questions à te poser quand même sur les 4 coachs. On dira lequel t'as le plus impressionné.
Il y a un côté, Nico, comme on est très US, là, avec Maxime.
Attends, mais Maxime Giannot est The New Damien Perrinel.
C'est incroyable.
C'est vrai, on a des New Yorkais.
Les cheveux ont moins.
Mais c'est pas le même club, c'est ça? Vous étiez pas dans le même club?
Non, j'étais dans le meilleur. J'étais dans le bon.
Il
était dans le nouveau riche, surtout.
Quitte à être intelligent.
C'était quoi, toi, t'es New York FC?
Ouais, c'est ça, les bleus.
Et toi,
New York Red Bull.
Red Bull, c'est les galaxies, Damien.
On se retrouve tous au baratin, quand même, malgré tout.
Ah, tiens, on en parlait.
Voilà.
On va y aller, n'en bouge pas.
On en parle dans 10 jours.
On sera à New York dans une semaine.
On en parle dans 10 jours. Tiens, c'est vrai, qui a fait la meilleure carrière? J'aime bien mettre de l'ambiance, là. Maxime, Damien,
tu vas plomber là.
Damien, t'as quoi? T'as 11 matchs en Ligue 1, je crois, c'est ça?
Ouais, Max a une carrière plus.
Plus Jupiler League, plus belge, hein, et international aussi.
À Ajaccio, t'étais en Ligue 1, c'est ça?
Non, Ligue 2 pour le coup.
Ligue 2.
Bah, tu vois,
et puis international, Luxembourg.
Non, ouais, bah, j'ai un peu plus de matchs que toi, Damien, c'est tout.
C'est bien.
Non, je rigole. Non, on va dire qu'on a une carrière égale.
On a une équipe de l'After, ça fait une bonne charnière.
Une excellente charnière, t'as raison.
On n'allait pas très vite, lui et moi.
Perinel, Chano.
Non, c'est ballon, nous, c'est ça.
Ouais. Bah, toi, ouais, surtout. Ouais.
Que vous avez fait une longue carrière, en tout cas, tous les deux, les gars. Et notamment
plusieurs fois. Hein.
Ah bon?
Ah, bah, évidemment. On a joué.
T'es en Ligue 2?
Maintenant, MLS pour le
coup. MLS aussi, d'accord.
Peut-être même en Ligue 2. Ouais, je sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, en MLS.
J'ai me retrouvé dans un duel sur le
terrain. Très bon joueur, Damien. Très, très bon joueur. C'était le Laurent Blanc des New York Red Bull.
Très bien. Alors, tu restes avec
nous. J'ai bien fait de venir.
Une heure, Damien Perinel est avec nous. La saison ratée de Monaco, on va en parler. La double confrontation Ligue des Champions contre le PSG. Vous avez failli sortir le futur champion, double champion d'Europe en titre. L'évolution d'Ekliouj que tu as vu jeune, que tu as amené chez les pros, notamment à Monaco jusqu'au mondial désormais. As-tu cru en Paul Pogba? On te posera des questions comme ça. Est-ce que Golovin se fout-il du monde? On te posera la question également. Et puis, est-ce que le prince, il est sympa? Voilà parmi les questions qu'on peut te poser ce soir.
Est-ce que tu as eu réunion chez Riboloyev, pieds nus sur la moquette blanche?
J'ai pas eu ce privilège. J'ai pas eu cet honneur.
On a jamais trouvé quelqu'un qui est allé sur cette moquette.
Chez le président.
Pas qu'il a une moquette épaisse 50 cm.
Le rêve.
Je suis d'accord pour enlever les chaussures quand on va chez quelqu'un.
D'accord. Même parquet?
Bon, si possible, ouais. Ça dépend où t'as marché avant, quoi.
Et tu mets, d'accord. Hein.
Je peux prêter des mocassins.
Dans la deuxième heure de l'after, on aura également un invité, une figure de l'arbitrage fin 20e siècle, début 21e. Gilles Vessière sera avec nous. Il sort un bouquin, une autobiographie, plus de 350 matchs arbitrés. On va parler plein de questions à lui poser, hein. Le pire entraîneur possible qu'il a saoulé pendant sa carrière.
Le parking du Parc
des joueur Prince. Le plus élégant, le parking du Parc des Princes, l'épisode Luis Fernandez, notamment, qui lui bloque la sortie. On va revenir sur plein d'événements, notamment ce Lyon-Lens en 2002, match du titre qu'il a arbitré la finale du championnat de France. Ce sera une séquence revival. Et puis, Emmanuel Macron a visé les sceptiques, les critiques au moment de l'arrivée de Lucien Riquet, dont tu faisais partie, Daniel. Tu voulais répondre ce soir au président de la République. Voilà.
Dans la le président de la République écoute l'after, mais j'ai l'impression qu'il a mélangé les années. Il ne savait pas de quelle année il parlait, parce que ça ne peut pas être de cette année.
Garde-en tout à l'heure, Daniel.
Elles étaient d'avant, et puis il ne les a visiblement pas toutes comprises, mais bon.
On met la Marseillaise ou pas quand.
En même temps, il est un petit peu fatigué, le président. Il est un peu en bout de piste.
Oui, ouais. Il est un peu en train de lâcher la rampe tranquillement. Et puis les infos OM menacées d'exclusion de Ligue Europa pour non-respect d'un accord avec l'UEFA. On en parle aussi dans la deuxième heure de l'after. Vous nous appelez au 3216, WhatsApp 0612 424 424 pour envoyer vos messages. Également, on est en direct sur la chaîne YouTube de l'after. Vous le savez, le direct, c'est Roland Garros. Encore une surprise, un gamin de 20 ans peut-être en demi-finale de Roland. Eric Salio, bonsoir.
Bonsoir, une surprise. Ils se tiennent au classement ATP, hein. Mensik est 27, Fonseca est 30. Et c'est vrai que Fonseca a marqué les esprits en éliminant Djokovic. Il est mené 2-0, le Brésilien. Mais la réaction est là, puisqu'il vient de breaker d'entrée de troisième manche son adversaire. Alors, Mensik, ça peut être fabuleux. Et puis, parfois, ça pète un casque. Et là, il a pété un boulon, puisqu'il vient de tenter un ace sur deuxième balle à 208. Ça lui coûte une double faute. Et donc, un break. Est-ce que cette partie est relancée? On l'espère. Je rappelle quand même que Fonseca a effectué deux remontadas dans ce tournoi. Donc, j'avais 203.
Okay, ce serait pour moi, j'étais en train de me hyper Fonseca, là. Et s'il perd ce soir, quelle déception.
Ah oui, bien sûr.
Est-ce qu'il y a tous les Brésiliens, là, comme l'autre soir, là?
Joao! Il va avoir du mal à gratter des places, hein.
D'accord.
C'est pas évident. Maintenant, il n'y a plus vraiment de marché noir, tu sais. Très bien. C'est compliqué de.
Ah, parce que t'avais au marché noir, t'as un bel exemple.
Non, mais souviens-toi, il y avait des reportages, t'as les portes d'Auteuil, tu sortais la liasse de billets,
tu fais la promotion du marché noir.
En revanche, ça existe encore,
les. Pas de problème, hein, Eric.
Eric, ça existe encore, les anciens joueurs de la français qui revendent des places à invitation de la Fédé ou pas? Ça existe encore, ça?
Je suis pas au courant de ça.
T'es pas au courant de ça? D'accord. Ok. Eric, à tout à l'heure. Alors, Damien. 6 saisons à Monaco, pourquoi tu pars de Monaco? Pourquoi tu décides de quitter la Turbie? Région magnifique, t'as adoré la vie, hein. Nice, Monaco, Cap-d'Agde,
région
superbe.
Magnifique région. Il y a du passage là-bas en plus, on voit du beau monde.
Tu vois du beau monde. Alors pourquoi tu pars de Monaco finalement après 6 saisons merveilleuses sur la Côte d'Azur?
Bah déjà 6 saisons, c'est vrai que dans un club comme l'AS Monaco, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec cette exigence du haut niveau, je trouve que c'est un beau parcours. C'est un club que je remercie parce que pendant 6 ans, il m'a permis de me développer. En tant que coach, en tant qu'être humain, il m'a permis aussi de voir plusieurs méthodologies de travail, de voir comment fonctionne un club de très haut niveau. J'ai pu aussi participer à des campagnes de Ligue des Champions, Europa League, en tant qu'entraîneur adjoint. Donc en tant qu'expérience, c'était vraiment vraiment bien. Mais sauf qu'à un moment, il faut voir aussi autre chose, se mettre en danger, sortir de sa zone de confort, et puis assouvir une certaine ambition de se développer.
C'est-à-dire quoi? Être numéro 1 un jour, pas rester un éternel numéro 2, c'est ça?
C'est en effet, je pense qu'aujourd'hui, je me sens prêt à être responsable d'un projet et puis être à la tête d'une équipe, oui.
Et pourquoi pas à Monaco d'ailleurs? T'as une expérience, tu connais pas mal de joueurs là-bas, les structures du club. Pourquoi ils t'ont pas un jour nommé numéro 1? T'en as vu 4 défiler?
Parce que tout simplement, pour coacher un club comme l'AS Monaco, je pense qu'il faut avoir une certaine expérience déjà.
On a vu des exemples de jeunes entraîneurs sans expérience qu'on a lancé. Évidemment, à Lyon, on pense à Pierre Sage. Il y en a eu d'autres. Digard est arrivé un petit peu comme ça, sans qu'on sache véritablement s'il avait l'expérience. Toi, c'est parce que Monaco était un trop gros club, que la direction du club voulait des têtes d'affiche un peu connues, ceux qui sont venus, moi, Uther, parce qu'il venait de Francfort, Niko Kovac avait été en Allemagne, au Bayern, Francfort, lui aussi d'ailleurs, il me semble qu'il avait été à Francfort, ouais. Niko Kovac. C'est parce que c'était la particularité du club qu'ils n'ont pas voulu faire confiance à un gars qui n'avait pas coaché avant?
Non, déjà, il faut avoir l'humilité, c'est que là, c'est un club qui est quand même en Ligue des Champions. lors de cette saison. Donc de lancer un jeune coach, ils ont déjà été très courageux. Je trouve qu'il faut leur donner ça, de lancer Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco, qui avait cette expérience lui aussi en début de saison de la Coupe d'Europe avec l'Union. L'année dernière, elle est champion avec l'Union. Moi, je trouvais ça vraiment bien que justement ils aient ce courage
de
mettre un jeune coach,
puisqu'il le vire 6 mois après.
Ça a pas marché, peut-être pour différentes raisons, mais.
Mais comment ça peut marcher à Monaco? Est-ce que tu as réussi en 6 ans à percer le mystère monégasque? Aujourd'hui, j'échange avec un coach à qui je demande comme ça, Monaco, ça pourrait être branché. Il me répond, peut-être, mais pas pour les bonnes raisons. Et ça, je l'ai souvent entendu, pas pour les bonnes raisons en parlant de Monaco. Comme pour certains joueurs, pas pour les bonnes raisons. Il y avait l'époque où les mecs y allaient à 35 ans en fin de carrière, les entraîneurs, tu sais. À 18h, par exemple, bon, il est plus là, donc, que tu confirmes ou pas, peu importe, je le dis, il est arrivé à Monaco, il est un peu devenu foufou, à 18h, les grands restaurants, la Côte d'Azur, les yachts, les machins. Monaco, c'est très difficile à coacher. Damien.
C'est difficile à coacher, mais si on revient au constat sur les 6 saisons que moi, où j'ai eu le bonheur d'être au club, c'est quand même un club qui finit troisième.
Mais
sixième.
Il y a des moyens, Damien. Il manquerait plus que ça en prime.
Mais je veux dire, c'est un club qui a fait preuve d'une très belle régularité sur les dernières saisons.
Donc, il y a des moyens.
Et puis, il y a des moyens, mais t'as aussi beaucoup de contraintes dans le club de l'AS Monaco.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que tu n'as pas forcément beaucoup de revenus par rapport au stade. Ce qui fait par rapport à d'autres clubs, t'as un certain désavantage aussi.
À l'arrivée, t'as un top 3 budget en France quand même.
T'as un mécène qui arrive déjà.
Non, mais le mystère dont je te parle, c'est l'entraîneur qui arrive pas à motiver des joueurs sur toute une saison. C'est des joueurs qui ressemblent à des intermittents du spectacle. Pendant 2 mois, ils sont bons. Et puis, c'est un peu comme quand on fait la vanne. Dès qu'arrive le printemps, le casino, le café de Paris, la balade en yacht. Mais à l'arrivée, il y a des trucs qui sont vrais quand on dit ça.
Je trouve que c'est un cliché, un peu, sincèrement. Non, je trouve que c'est un cliché, cette histoire du au mois d'avril. Ça, c'est quand tu connais pas Monaco, ou alors que c'est peut-être ta première saison et que tout de suite tu vois deux Ferrari dans la rue et tu penses que t'es en vacances.
Oui, c'est ça.
Alors, mais non, parce que la réalité, c'est que là-bas, toute l'année, c'est ton contexte, c'est ton environnement qui est quotidien. Donc, c'est-à-dire que, à la fin, tu fais presque même plus attention et t'as ton objectif, c'est d'être, pour moi, sur le terrain performant. Et d'ailleurs, toi, je vais te dire, sur les dernières saisons, il y a toujours eu des séries qui ont été extraordinaires sur les fins de saison, là où justement, soi-disant, il y a beaucoup de distractions.
Après, il y a des trous d'air dans la saison.
Et puis pour terminer, je pense pas que l'AS Monaco est le seul club à avoir aussi des trous d'air parfois lors d'une saison.
Ça fait partie d'une saison.
La question, c'est donc. T'as raison, moi je crois pas que ce soit lié au le fameux contexte émollient, tout ça. Bon. Au contraire, les Monégasques ont fait des matchs incroyables contre le PSG cette année. Enfin, toi, il y a eu des moments incroyables, des moments ponctuels.
On a l'impression qu'ils se motivent contre les gros.
Alors, en partie, effectivement, c'est une des questions. Donc, est-ce que c'est l'éternel truc qui finalement n'est peut-être pas assez impensif, le problème du manque de pression populaire? Est-ce que ça joue pas? Parce que dans plein d'environnements, quand même, ça peut être trop pressurisant comme à Marseille, mais ça peut être utile, hein, une pression populaire. Parce qu'on a l'impression que les joueurs, finalement, comme dit Daniel, ils sont bien motivés contre le PSG ou dans certains gros matchs, puis beaucoup moins en Ligue 1 sur d'autres matchs.
La pression peut te galvaniser, peut te motiver, mais aussi, je pense que le calme peut aussi être bénéfique dans certains moments, dans certaines situations. Toi, je vais te prendre, on a une situation la saison dernière où on va jouer à Montpellier, qui est dernier. Et on arrive à perdre ce match contre Montpellier. Donc derrière, forcément, il y a une petite réunion avec les supporters, avec Adi. Ça se passe très bien dans la. C'est pas bon enfant, mais c'est dans le respect. Il y a une discussion. Et derrière, on a cette tranquillité qui nous permet, à la fin, de finir troisième.
Et puis, ce qui peut être un inconvénient, le manque de pression peut aussi être un avantage quand ça va moins bien, justement. Pour.
Et puis, alors, parfois, ça marche d'ailleurs. On peut pas se cacher. Non, mais là, je suis pas d'accord avec vous parce que vous vous cachez derrière l'environnement, mais ça voudrait dire que l'AS Monaco, si vraiment l'environnement était le problème, n'aurait jamais réussi. Il y a quand même eu des saisons, et je pense à la saison à Kylian Mbappé. Enfin, il y a quand même.
Je suis d'accord, Monaco fonctionne. C'est pas ça qu'on dit, c'est que.
On va pas se cacher derrière l'environnement.
Non, mais c'est quelque chose. Est-ce que Monaco sous-performe par rapport à ses moyens?
Non, en fait, c'est la qualité.
Je dis qu'il y a des moments difficiles et que, effectivement, parfois, il y a des. On a le sentiment qu'il y a des coachs qui arrivent un petit peu mieux à gérer tout ça et à motiver les joueurs en permanence. Et puis, il y a eu des équipes extraordinaires ces dernières années à Monaco. Et parfois, on se dit, ouais, ils pourraient faire mieux, ils ont un gros budget. Cette année, par exemple, c'est clairement un échec.
Thiago Scuro,
il envoie le podium, ils ont l'oseille pour le podium, ils finissent 7e.
Quel échec, Daniel, quand tu regardes ce groupe.
On va continuer.
Mais moi, avec beaucoup de respect et beaucoup d'humilité, quand tu regardes ce groupe, c'est pas, il n'y a pas assez de qualité pour finir dans le top 3. On va en parler, bien sûr.
Au début de la saison, par rapport à Lens. Mais tu plaisantes, t'as Lamine Camara au milieu, t'as
Zakaria. Donc, toi, tu penses qu'avec ce groupe-là, tu peux finir top 3?
Mais bien sûr, tu plaisantes ou quoi?
Le truc,
c'est que tu donnes ton sentiment à la fin de la saison quand t'as vu.
Paul Pogba, alors champion du monde, c'est censé gagner. C'est pas ça. Tu dois prendre le contexte général.
Damien, tu vas nous répondre dans un instant justement à la question. Puis j'aimerais qu'on parle du travail de tes coachs.
Au début de la saison, sans Garay, personne ne sait qui va faire cette saison.
Les quatre coachs que t'as connus.
On va parler également de l'OM, c'est devant.
Des individualités.
D'Akliouche. PSG, c'est devant.
Mais Lyon, c'est jamais devant.
Allez, pause. Dans un instant, avec Maxime Chano, Daniel Riolo, Maxime Chano et Flo Gautreau, j'ai dit deux fois, Damien Perrinel aussi, à tout de suite sur RMC.
RMC, l'after foot. RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
Avec Maxime Chano, Florent Gautreau, Daniel Riolo, RMC, l'after, 22h18. Et notre invité, Damien Perrinel, 6 saisons à Monaco, il nous revient pour nous raconter cette expérience-là, la saison écoulée il y a quelques jours, terminée par une 7e place. On va en parler, savoir ce qui n'a pas marché. Tiens, d'abord, réagis à ce que disait au débat Daniel Riolo, Maxime Chano. Où était la juste place de l'effectif monégas selon toi? Est-ce que tu avais un effectif avec ton coach, un peu Cognoli, top 3 Ligue 1, tu penses, toi?
Non, mais je pense que
déjà. T'as vu tous les matchs, hein?
On mélange beaucoup de choses. C'est vrai que dès l'extérieur, on a l'impression. Et oui, c'est vrai que Monaco bénéficie de certains avantages et on pense que c'est un club riche, plein d'oseille, comme le dit Daniel souvent. Mais il y a ça, encore une fois, beaucoup de contraintes. Il y a le fair play financier qui t'impose d'avoir une masse salariale quand tu veux jouer l'Europe. D'accord?
Ça, c'est valable pour tout le monde, ça.
C'est valable pour tout le monde. Mais c'est un budget qui est inférieur à Marseille, qui est inférieur à Paris, qui est inférieur. Je pense que tu dois te situer pas loin de la 4e, 5e place au niveau du budget.
Oui.
Premièrement.
T'as quelques avantages fiscaux à Monaco aussi.
T'as des avantages fiscaux, mais t'as pas de recettes. Encore une fois, t'as pas de recettes de stade.
Non, mais pour faire signer un joueur étranger, tu as des avantages.
C'est plus facile, ouais, bien sûr. Mais je veux dire, il y a aussi des contraintes. Il y a aussi des contraintes. Et c'est pas si simple. Et ce qui fait que. T'es obligé aussi de vendre, je pense, pour 130 millions d'euros
comme tous les clubs
la
en
saison
France.
Dernière
comme tous les clubs
pour pouvoir être à l'équilibre. Ça, c'est plus sur l'aspect financier.
La question, c'est la qualité de l'effectif au début et le classement final.
C'est ça.
Je suis désolé, il y a un déficit.
Vas-y, Damien. T'es d'accord avec ça ou pas?
Il y a un déficit. Après, encore une fois, quand tu joues la Coupe d'Europe, c'est pas le même championnat que quand t'as un match par semaine.
Voilà.
Et ça, c'est autre chose. Et puis, t'as des circonstances cette saison qui ont fait que t'as eu l'opportunité, on va voir ça comme ça, de lancer beaucoup de jeunes joueurs aussi, parce que t'as eu pas mal de blessures et il y a certains joueurs qui ont performé, jeunes joueurs qui ont performé, mais qui ont peut-être trop joué par rapport à ce qui était prévu et in fine c'est peut-être là où on a manqué de constance par rapport à la jeunesse de notre effectif. On a l'un des effectifs les plus jeunes encore une fois de Ligue 1.
Et puis vous avez pas été aidé par les blessures aussi, hein?
Il y a eu certaines blessures évidemment qui nous ont un peu plombé
cette saison, ouais.
Et encore Zakaria, c'est l'une des saisons où il a été le
moins Golovin, Minamino,
il est terminé en défense aussi, ça a été un des choix forts là pour le coup. Juste un point pour finir là-dessus, puisqu'on parlait des coachs tout à l'heure, et on va les refaire un par un, je crois. Mais quel est le profil après ce que t'as vu? Quel serait le bon profil de coach pour Monaco? Parce que finalement, on a vu des gens.
Ce sera Philippe et Louis, hein, de toute façon, voilà.
Oui. Mais quel est le bon justement? Est-ce que on peut demander s'il peut cocher ses cases? Mais quelles sont les qualités d'un coach pour réussir justement avec ce que t'as dit là, ce contexte, ce type de joueur et l'effectif en gros qu'il a déjà, même s'il va évidemment être touché?
Il y a peut-être un mix de tout ce que j'ai connu,
j'ai envie
de te dire. Déjà, en effet, il faut vraiment appréhender cet environnement et ce contexte monégasque. Et, parce que quand tu entraînes Monaco, tu entraînes plus qu'un club de foot, tu entraînes le club représentant un pays, une principauté.
Mm-hmm.
Donc il te faut déjà avoir une certaine connaissance de cet environnement. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est un club qui a aussi l'ADN de développement de jeunes. Mmh. Ça a toujours été un centre de formation qui a été performant. Il faut avoir un football léché. Et je pense que sur les quatre coachs que j'ai pu expérimenter, où on avait Sébastien Pocconulli avec des idées neuves, avec beaucoup d'énergie. On a eu Adi Hütter, qui lui en termes de management était très bon, c'était une référence de pouvoir emmener tout le monde vers un projet unique. Ensuite, tu avais Philippe Clément qui était lui aussi qui est reconnu pour développer des jeunes joueurs, méthodologie d'entraînement qui était top. Et puis tu avais Nico Kovac qui avait un certain charisme aussi, une certaine méthode d'expérience. Donc je pense que c'est un mix de tout ça en effet, ouais.
Et Philippe et Louis, de ce que t'en sais, toi, ça te paraît-tu un bon choix ?
Je ne connais pas du tout. J'ai juste vu les matchs qu'il avait joué contre le PSG, il me semble, en Coupe du Monde des clubs. Mais donc, je ne vais pas me prononcer sur.
Damien, sur l'actualité, là, Pocognulli, qui ne fait même pas une saison, qui est à la 8e journée, qui est viré avant la fin de son contrat, un an avant la fin de son contrat, c'est injuste.
À distance.
Il aurait mérité une deuxième saison ou pas, franchement ?
C'est dur de mettre peut-être cette saison en demi-teinte. Les responsabilités, elles sont partagées, mais elles sont partagées entre tout le monde. C'est-à-dire, elles sont partagées. Tout le monde a fait des erreurs. Moi, j'ai fait des erreurs. Peut-être l'intendant a fait des erreurs. Donc c'est délicat.
Directeur sportif. Après, surtout.
Après, pardon.
Directeur sportif. Tu sais que les supporters en veulent énormément.
Thiago Scuro.
Ouais. Mais je pense que aujourd'hui, même pour la direction. C'est dur de licencier un coach parce que quand tu le prends, tu formes une équipe, tu formes un projet. C'est certainement une décision qui a été très difficile à prendre pour la direction. J'en suis convaincu.
Le reproche qu'on fait, et on en a parlé dans l'after récemment, on s'est dit, dans un cas comme ça, où Monaco termine à cette place-là, c'est un peu l'équivalent du Milan AC en Italie, où tout le monde est parti. Et tu as raison de dire que finalement, c'est la solution classique, tu vires le coach, alors que sans doute qu'il fallait une révolution de palais, sans mauvais jeu de mots, à Monaco cette intersaison.
Il y a eu
j'ai
fait partie de cette aventure. Donc pour moi aussi c'est le moment justement de la réflexion, de voir ce qui a été, ce qui a pas été, de qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Et je pense que si tout le monde a peut-être cette analyse et cette autocritique de ce qui n'a pas fonctionné, le but encore une fois c'est de
toi,
pas recommencer.
Tu as compris ce qui n'avait pas fonctionné, même dans le management de Pocognulli quand il est arrivé, de tous les coachs avec qui tu as bossé, c'est celui avec qui le courant est le moins bien passé.
Non, pas forcément.
Pas forcément.
Pas forcément. Non. S'il y a eu il y a eu beaucoup d'échanges avec Sébastien Pocognulli. Encore une fois, avec sa méthode de travail, j'ai pu apprendre une nouvelle manière de voir l'entraînement, une nouvelle méthodologie. Donc chaque expérience, encore une fois, est enrichissante. Et puis moi, j'espère également lui avoir fait partager l'expérience que j'ai pu avoir.
Il y a des coachs principaux, entraîneurs principaux, qui partagent plus leur méthode avec l'adjoint. En plus, Pocognulli arrive avec son adjoint Kevin Miralas, qui est son pote. Il est très proche. Quel est celui qui a plus partagé avec toi ? Il y a différents types d'entraîneurs. Et d'adjoint, par définition aussi. Est-ce que parfois tu t'es senti un peu à l'écart d'un travail, quoi ?
Non, pas forcément, parce que justement, le boulot d'un adjoint, c'est d'être force de proposition. C'est de rendre l'entraîneur meilleur et que l'entraîneur te rende meilleur.
Lui, il m'a l'air en forme, fais-le jouer lui. Au moment d'un changement, fais rentrer lui plutôt que lui. C'est quoi proposition d'un adjoint, en fait ?
Les propositions d'un adjoint, c'est peut-être sur des schémas tactiques, sur des propositions d'entraînement, de contenu d'entraînement, d'analyse de l'adversaire. Tiens, regarde, voilà. Et puis après, c'est à toi de faire passer tes
idées. Zakaria, qui recule. Quand ça a été fait, vous en avez parlé. T'as trouvé que c'était une bonne idée. De qui est venue l'idée? Comment ça s'est passé, la défense qui est passée à 3 avec Zakaria qui recule?
C'était Poco, ce qu'il faisait.
À l'Union, il jouait des joueurs, il jouait déjà à trois.
Non, mais qui jouait à trois.
Mais le choix de Zakaria, de faire référence à Zakaria.
Il y avait eu aussi.
Parce que les deux autres, ils n'avançaient pas. Ils avaient besoin d'aide.
Non, mais c'est vrai. T'avais des blessures à cette époque-là. Je crois que ça se produit contre la Juve en Ligue des Champions pour la première fois, il me semble. Et c'est parce que on sentait, et Sébastien Pocognulli, le coach, sentait que cette équipe était plus performante avec une base à 3. Et puis c'est vrai que la vitesse de Zakaria nous a vraiment aidé sur
cette période. Mais quand il l'a fait, t'as trouvé que c'est une bonne idée? Il t'en a parlé avant? Comment ça se passe, en fait?
Bien sûr, on échange. Et puis à la fin, la discussion est toujours ouverte. C'est ça qui est bien dans un bureau, justement. Et par contre, et parfois tu peux avoir des désaccords et parfois tu es complètement d'accord. Mais une fois que tu sors du bureau, C'est clair. Et on va tous dans la même direction.
Attention, et les choix, par exemple, à un moment, ça a été clair, le trio offensif, Mika a disparu.
Mika Biarritz.
On pensait, après sa saison dernière, que c'est le gars qui était capable de mettre une vingtaine de buts dans une saison. Bon, ça s'est mal passé. Un choix clair a été fait. C'était Balogun qui jouait. Comment tous ces choix, comment t'as accueilli tous ces choix? Parce que toi, t'étais là avant Pocognoli. Donc, comment t'as vu tout ça, toi?
Mais je pense que le coach a un style de jeu, un projet de jeu. Et d'ailleurs, toi, Balogun, moi, il me fait penser à Promesse, c'est ça, hein, ouais. Qui était à l'Union.
À l'Union, ouais,
et je pense qu'il a retrouvé joueur, à travers l'attaquant.
Non,
Canadien. Ah, Promesse David. Ça. Comment il s'appelle?
Non, toi, tu parles de Quincy Promesse.
Ouais. Toi, ça. Ouais. Il y a des soucis derrière.
C'est ça. Ouais. Et derrière, et c'est un joueur, je pense, ouais, qui correspondait plus
au problème au Spartak.
Au schéma tactique du coach.
Promesse David.
Okay. Un autre.
Voilà. Les caractéristiques correspondaient à ce que recherchait.
Et ça a fonctionné.
Est-ce que ça a fonctionné? Et puis derrière, c'est vrai qu'il a, Ballot a été en feu toute la saison.
Oui, absolument. Il a fait.
Et maintenant, par rapport à ta situation, ça m'intéresse parce que le fait justement que toi tu restes en place et que des nouveaux entraîneurs à chaque fois arrivent, est-ce que justement t'es pas trop étiqué ancien entraîneur quand un nouvel entraîneur arrive? Est-ce que t'es pas vu presque, excuse-moi du terme, hein, comme une taupe, enfin, entre guillemets. Et comment toi tu t'adaptes à ça? Est-ce que c'est compliqué quand un nouvel entraîneur arrive? Est-ce que tu te mets justement au diapason? Ça peut être quand même un petit peu difficile à trouver ta place finalement.
Non, justement, parce que c'est là où le club est fort. Parce que la situation telle que tu peux la percevoir toi, ça peut être la même avec le préparateur physique.
Ah
ça
oui,
peut être le même avec l'entraîneur des gardiens.
Après,
ça peut être la même
proximité, évidemment.
Bien sûr, mais justement, moi, le rôle et le boulot, encore une fois, d'entraîneur adjoint, c'est de faciliter la tâche, ouais, et de faire gagner du temps à l'entraîneur, ouais, et de tout de suite lui montrer que moi je suis là pour t'aider et je suis là pour qu'on aille dans la bonne direction.
Et ça a été le cas avec
Poco? Ouais, bien sûr que ça a été le cas avec le coach.
Et est-ce que
pas que moi d'ailleurs, mais ouais, tout le monde, tout club. Ouais.
Est-ce que le mystère Golovin va pouvoir nous aider à comprendre ce joueur? Parce que nous on comprend pas.
Golo, quel joueur? Bien sûr, quel joueur?
Quel joueur, c'est un mec qui fait 29 très bons matchs dans la saison.
Il fait 4 matchs dans l'année. Je connais ton exigence, je connais tes. Quand même, le mec, il fait 4 matchs dans l'année, Damien.
T'es dur.
C'est bon, t'es
dur.
Je suis Damien.
T'es dur.
T'es plus salarié de Monaco, laisse Monaco, là, tu peux y aller.
Reprenez les stats de Golo. Ok. Je pense qu'il fait 27 matchs la saison dernière. Là, celle qui vient de te passer.
Et combien il en fait de bien? 4?
Il en fait 25 avant. C'est un joueur. En plus de ça, avec la sélection. Alors, il y a moins de matchs de sélection. Il fait 7 matchs de Ligue des Champions. Donc, c'est quand même un joueur. En revanche, quand Golo va, c'est vrai que l'équipe va mieux.
Ah bah, c'est vrai. Voilà. Il passe souvent très bien, Golovin.
Et c'est là. Et c'est un travail. C'est la régularité, tout simplement. C'est la constance dans la performance. C'est un joueur qui est exceptionnel.
Mais ça, on voit bien.
Parce que lui, justement, il n'est pas l'un des symboles. Tu vois, quand tu constitues une équipe, est-ce qu'il n'est pas l'un des symboles justement de ce qui fait du mal à Monaco, même à l'extérieur? C'est-à-dire que tu vois l'image que nous on en a. Alors peut-être qu'elle est un peu biaisée, mais quand même, c'est aussi l'image qu'en ont les gens à l'extérieur, en se disant ouais, c'est un super footballeur, tout le monde le sait. Mais est-ce que c'est pas justement parce qu'il est à Monaco, parce qu'il a choisi un cadre finalement avec une pression quand même moindre de la part des supporters et du reste, que finalement il n'est pas performant et qu'il est là en train de, entre guillemets, de cachetonner quoi?
Non, je vous trouve globalement
dur,
sévère. Oui, on a le droit d'être exigeant avec des joueurs de ce talent. Mais encore une fois, si j'étais venu la saison dernière, en fin de saison dernière, et qu'on avait terminé troisième, on n'aurait pas eu ce débat, ouais, tout simplement. Et je pense que c'est le premier à avoir conscience que la saison est en deçà de nos attentes.
Et tu vois, sur Golovin, moi, ça me fait penser un peu, pour reprendre l'exemple de Luis Enrique avec le PSG et du coach qu'il faudra à Monaco, Golovin est typiquement le genre de joueur qu'un coach X, je sais pas lequel, pourrait regonfler en disant mais attends, tu peux faire un truc de dingue, tu peux être le leader de cette équipe, tu peux faire. Ça n'a pas été le cas. Alors je dis pas que c'est simple, hein, je dis pas que n'importe qui peut être Luis Enrique, n'importe qui peut changer tous les joueurs comme Dembélé, comme il l'a fait avec Dembélé, mais c'est ce gâchis-là, toi, ce petit manque qui doit frustrer les supporters de Monaco.
Ouais, bien sûr. Encore une fois, je comprends peut-être cette frustration de la part des supporters, mais quand il est pas là, tu le sens aussi. Mmh. Et tu sais que quand tu fais ton équipe et que tu t'as Golo qui est absent, tu dis bon allez, qui je vais mettre pour remplacer, parce que tu sais qu'il t'amène des choses. Et puis c'est un joueur qui est vachement polyvalent. Et après, quand on parle de fragilité de Golovin, c'est un joueur, c'est peut-être l'un des joueurs qui court le plus sur le terrain, qui est le plus généreux dans son effort aussi.
Bon, on va faire une pause. Dans un instant, on va parler de Paul Pogba, forcément d'Akliouche également avec toi, Damien. T'es avec nous encore pendant quelques minutes dans l'after. Le tennis, Roland Garros, qui va se qualifier pour les demi-finales, Eric Salio. Mensik ou Fonseca, où en est-on?
Ouais, c'est un match que Sacha Zverev regarde avec évidemment beaucoup d'attention, puisqu'il prendra le vainqueur vendredi. 2-7-0 pour Jakub Mensik, 6-4-6-3. Fonseca est revenu à 3 partout. Et il a 2 balles de break pour repasser devant face à Mensik qui faiblit légèrement. Il y a une occasion à prendre pour le Brésilien.
Allez, reste avec nous, RMC L'After, 22h32, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Nicolas Jamin.
Daniel Riou est là, Florent Gautreau, Maxime Chanou aussi, et notre invité Damien Perrinel. Après 6 saisons à Monaco, il a pris sa liberté. De ton pas encore, on sent que tu ne veux pas t'attaquer à l'AS Monaco, hein, certains joueurs, notamment dirigeants et anciens entraîneurs. Damien, pas tout dire peut-être ce soir non plus, hein, faut pas insulter l'avenir, on ne sait jamais. Hein, un retour à Monaco un jour peut-être, hein, non?
Quel club? Quel club? Ce club, c'est un bijou. Vraiment, c'est comme ça que je le décris en tout cas. C'est un club magnifique.
Ah mais ça là-dessus, c'est
incroyable, la région.
Ah non, ça, je suis d'accord. Moi, Monaco, c'est formidable. Le maillot, le lien qu'on ne sait pas assez entre la principauté, ce que représente la principauté, à quel point c'est aimé par les gens de Monaco. Non, il y a vraiment un truc. Mais après, à la hauteur de ce que j'estime être vraiment un très beau club. Il y a parfois une déception, une espèce de sentiment qu'on va pas au bout des choses, qu'on se laisse un petit peu endormir. Alors, vous dites que c'est un cliché. Peut-être, je veux bien l'entendre. Pourquoi pas? Peut-être qu'on en fait trop sur le côté cliché monégasque. Je sais pas. Toi, t'as été dedans.
Non, mais c'est génial parce qu'on parle avec des mecs qui sont passés par Monaco, qui ont joué à l'AS Monaco et qui nous disent effectivement la grande ville, ont vécu à Monaco aussi. Casino, sortie, boîte, toute la Côte d'Azur jusqu'à Saint-Tropez. Ça, c'est une réalité que t'as. Peut-être quand tu vis à Paris aussi, mais que t'as pas quand tu joues à Rennes.
Bien sûr que tu l'as cette réalité, mais derrière, je veux dire, les joueurs qui intègrent le club, je peux te garantir qu'ils n'ont pas besoin d'aller à Monaco, de jouer à Monaco pour
sortir en boîte.
Exactement.
Il y en a qui font 3 heures de route après un match pour sortir à Paris, par exemple. Ouais. Et tant que de temps, c'est quelque chose
d'en cher, Maxime. En taxi parfois.
Et en taxi aussi parfois.
Non, Guignon-Paris, c'était trop loin.
Tu pars du Havre pour aller à Paris, ça arrive aussi parfois après un match.
Mais bon, côté 4, tu pars.
Alors, l'anecdote, le Havre-Paris en taxi, elle est vieille. Il faut s'en souvenir de celle-là.
Tout à fait.
Aussi vieille que ça. Je dirais que 2011, non?
Ouais, 2012, 11.
C'est juste après Nice, je pense.
2011.
Juste après Nice,
absolument. Il a parfaitement raison.
Vous vous rappelez
qui était le chef de la voiture?
Griezmann.
Griezmann était le chef de la bande.
C'est ça l'histoire. Après, la composition exacte des 4 ou des 5, je ne sais plus.
Mvila. Yann Mvila était là. Chris Mavinga.
Chris Mavinga était dans le taxi.
Il y a du Jimmy Brown dans l'oreillette. Hein.
Ah, Mavinga, c'est Jimmy. Ouais. Tout à fait, il s'en souvient.
Griezmann était le chauffeur.
Ouais. Bon, alors, parlons d'Akliouche.
Celui qui a appelé le taxi.
Damien, un joueur auquel tu es lié étroitement, c'est Marnes Akliouche, qui va disputer son premier mondial dans sa carrière. Cas intéressant, tu l'as eu dans le groupe élite que tu dirigeais, c'est ça, à l'AS Monaco?
Alors, il avait déjà intégré le groupe professionnel quand le groupe élite a été créé.
D'accord.
Voilà. Mais c'est vraiment le joueur que tu as suivi. T'en parles toujours avec des. Enfin, tu m'en as toujours parlé. Je sais pas si on dit l'expression, on l'accepte, étoile dans les yeux. Enfin, avec beaucoup d'affection. Allez, voilà.
Bien sûr, beaucoup d'affection. Mais encore une fois, faut aussi remettre les choses en ordre. Hein. C'est-à-dire que quand t'as un joueur comme Marnes qui accède au très haut niveau comme là, ce n'est pas grâce à Damien Perrinel, c'est grâce à lui, premièrement. C'est grâce à tout le club, tout ce qui a été mis en place. Justement, pour qu'ils puissent accéder, ça va à des analystes vidéo, ça va au centre de formation, aux formateurs. Donc, je suis juste une pièce du puzzle.
Tu avais le droit de le trouver formidable et d'avoir été derrière lui et de l'avoir connu très jeune. Donc, nous, on veut savoir comment tu as vécu sa progression.
Mais bien sûr que c'est un plaisir de voir Marnes s'éclater sur un terrain. Et puis, là aussi, quel talent, quel joueur.
Tu savais très vite, quand tu l'as découvert à la Turbie, que ça allait faire équipe de France, Marnes Akliouche.
C'est présomptueux de penser, quand on voit un joueur entrer sur le terrain en Ligue 1 à Monaco, que ça va être équipe de France. C'est Philippe Clément qui l'avait lancé à l'époque, et c'est Nico Kovac qui l'avait pris la première fois dans le groupe d'entraînement. Et donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, moi, je servais de lien entre les joueurs de l'académie et ce groupe professionnel.
Il fallait, fallait faire bosser sur des aspects précis. Tu
voilà,
l'as fait bosser
et, puis,
sur...
et puis derrière, on avait ce, ce développement individuel qui était mis en place.
Qu'est-ce qui lui manquait
sur
au début
quoi, ouais, voilà, sur quoi tu l'as fait bosser
bah, Marnet, c'est simple. C'était bien évidemment ce, cet aspect un peu athlétique, pouvoir résister. Et aujourd'hui, c'est très dur de le bouger, même s'il paraît encore une fois
assez frêle.
Et
costaud. Il multiplie les efforts.
Va le bouger.
Ouais. On raconte ça de Messi d'ailleurs. On raconte que quand on remarque des, certaines images sur les chocs et les blocs, il a beaucoup travaillé. Évidemment, on sait, on connaît l'histoire de Messi sur ça. Donc c'est possible effectivement de renforcer musculairement, même si ça ne se voit pas forcément.
Il y avait un autre truc. Il y avait une autre chose qu'on se disait, et je crois parce qu'après j'ai vu des chiffres là-dessus que c'était une fausse idée. C'était que c'était le joueur technique. Voilà, je sais pas aller plus loin. Tout le monde a compris, mais que dans le football moderne où il faut faire, où il y a beaucoup d'intensité, où il faut multiplier les courses, en gros, il faut avoir une bonne caisse et tout. On disait, ah, est-ce que c'est pas juste un joueur technique et tout? Est-ce qu'il est capable de faire ça? Et ça, en fait,
cette
réellement,
année, il
est.
Mentir,
ouais, voilà.
Ouais. C'est un joueur qui est capable de répéter les efforts.
Ouais, ça,
ça n'a pas été le cas sur les saisons précédentes. Là.
Ça, c'est chiffres qui ont beaucoup, beaucoup évolué là-dessus.
Mais ça a évolué. Après, avec Marnès, il y a souvent eu une incompréhension par rapport à son âge. Parce qu'aujourd'hui, il a 24 ans.
Il n'est pas si jeune.
Exactement.
Ouais.
Et donc, on dit, c'est vrai qu'il n'est plus si jeune, donc on peut moins lui permettre certaines erreurs, ainsi de suite. Mais au très haut niveau, c'est quelqu'un qui a commencé assez tardivement, parce que c'est un joueur qui est à maturité tardive, on appelle ça. Donc, je crois qu'il a vraiment 3 ans, 3 saisons.
21 ans à peu près.
De très haut niveau. Donc, il
reste jeune quand même.
Voilà, donc il commence un petit peu, je crois, avec Philippe Clément qui le lance. Derrière, il y a un épisode avec Adi, où, sur la première saison d'Adi Hutter, où il commence à entrer le temps plus l'équipe, et ça devient un titulaire indiscutable de la saison dernière. Et puis là, donc cette année, avec.
Non, mais il y a un trou d'air cette saison. Il y a 4 mois, on dit il va pas au mondial.
Mais justement, c'est peut-être là où aussi Marnès, c'est l'un des joueurs les plus fiables et les plus robustes de l'effectif. En 3 ans, je suis curieux de savoir combien de matchs il a pu manquer.
À manquer, c'est-à-dire
rater
d'être sur le terrain ou alors louper son match, c'est-à-dire la performance.
Blessure.
Ah oui, d'accord.
Ensuite, c'est un joueur qui a très vite assimilé sur la première saison avec Adi, on n'a pas la Coupe d'Europe, il me semble, et sur la deuxième saison, on a la Champions League. Il joue tous les matchs de Champions League, il joue tous les matchs de championnat quasiment, et là, cette année, il a aussi accepté le statut d'international. Et ça va vite quand même pour lui aussi. Ça va trois saisons. Alors, il a le droit peut-être d'avoir des moments où mentalement, il peut avoir un manque de fraîcheur. Je pense que sur Marnès, c'est plus parfois mental ou.
Alors, c'est intéressant parce que c'est pas ça. Ça, tu le disais, tu l'accompagnais là-dessus, tu lui disais quoi? Attention, maintenant, t'es international. Comment tu vis ça? Comment tu le gères? Est-ce qu'il y avait ce contact direct avec les joueurs? Ton rôle d'adjoint, notamment, peut-être plus confident qu'un coach principal?
Forcément,
avec Marnès.
Pas uniquement qu'avec Marnès, parce que tu fais pas de distinction. Je vais pas dire que c'était des contacts réguliers. C'est parfois quand. Il y avait des choses sur un ressenti. Toi, tu le prends à part et t'as peut-être en effet cette connexion avec lui parce qu'il te connaît depuis longtemps. On dit bon, allez, Marnès, là, maintenant, je sais pas. C'est juste des exemples, tu vois, que aller sur les efforts d'EF ou là, peut-être un peu aller autour de la simplicité. Mais encore une fois, c'était avec Marnès, c'était avec Madou Koulibaly, c'était avec Songoutou Magassa avant et c'était même avec, ça pouvait être avec Balogun, avec Thilo Kehrer. C'est un ensemble, en fait. On fait pas qu'avec les jeunes. Ouais. C'est quand il y avait des retours individuels, c'est avec tous les joueurs.
Sur Akiyush, et tu l'as dit là à l'instant, et moi je trouve que l'expérience internationale va lui apporter beaucoup parce qu'il l'a pris dans le bon sens, et notamment dans le sens que demandent Deschamps, enfin que demandent les entraîneurs à la plupart des joueurs, sauf Mbappé peut-être, c'est notamment de défendre. Et on a vu dans ces matchs qu'il a fait des efforts pour montrer, pour dire moi il n'y a pas de problème, je vais faire ces efforts-là. Moi je crois qu'il y a deux écueils, il y avait le physique, bon bah tu l'as dit, il y a ça, enfin le fait de défendre, et le fait de pas avoir trop de touches de balle pour faire la diff tout seul. Je trouve que lui là, ce défaut que Doué a parfois aussi, mais il a la qualité aussi de donner, quoi. C'est-à-dire de donner. Moi, je dis donner quand il faut donner, tirer quand il faut tirer, quoi. Pour moi, c'est ça la Benzema's touch, quoi, en fait, entre guillemets. Et je pense que toi, d'après toi, il a le mental pour ça, pour accéder sur ces trois critères à aller plus haut.
Je pense qu'il peut définitivement aller encore plus haut que ce qu'il a été. Peut-être qu'un changement d'environnement peut lui faire du bien.
Il est prêt pour le PSG? Tu penses?
J'ai aucune idée si le PSG.
Je pense qu'il est prêt
pour le très très haut niveau.
Est-ce qu'il est prêt à s'asseoir sur un banc de touche quand t'es international français?
Je vais te donner un exemple très concret. Alors, ça date il y a deux saisons, je crois, sur la première saison de Hadi. Il joue contre Marseille le match aller. On gagne et je crois qu'il met deux buts, une passe D sur ce match-là. Là, le match d'après, il est sur le banc.
Ouais.
Il joue 8 minutes. Pas un mot, ouais, pas une émotion, rien du tout. Ouais, mais tu sais comment c'est les jeunes aussi parfois.
Ouais.
Ça peut vite se dire, oh, j'ai marqué deux buts, j'ai fait une passe D, et attends, je suis sur le banc, je joue pas. Pas un mot, rien, à l'entraînement, rien.
Très bon entourage,
ça bosse,
bon
ça travaille, ça enchaîne.
Autour de lui.
Il joue 8 minutes. Derrière, il joue un autre match, je crois, il joue que 40 minutes, il est sur le banc, et, ou on le fait rentrer à la mi-temps parce que ça marche pas. Rien, pas de souci. Et donc, c'est quelqu'un, en réalité,
la bonne mentalité.
Mentalité. Exactement.
Et, en fait,
et tu vois, aujourd'hui, quand je vois les joueurs du PSG, c'est vrai que bah, ça devient un peu la référence où les Ramos, quand ils doivent rentrer sur le terrain, mais ils donnent tout pour le. Et je pense qu'il est vraiment dans cette mentalité.
Okay. On parlait justement du Paris Saint-Germain et de la possibilité de voir des joueurs arriver qui seraient d'accord, entre guillemets, d'être sur le banc, évidemment, en pouvant jouer 30 ou 35 matchs, parce qu'on connaît le calendrier du Paris Saint-Germain avec la Coupe d'Europe, la Ligue 1 et toutes les Coupes nationales. Mais en tout cas, pour revenir moi à Cliouche, moi je le trouve intéressant. Alors, ce qui lui a manqué cette saison, c'est évidemment la régularité. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en effet, c'est je sais pas si on peut appeler ça un changement de mentalité, mais je l'ai trouvé très généreux dans les efforts. C'était pas forcément le cas l'année dernière. Tu l'as dit peut-être aussi avec la bonne mentalité, c'est-à-dire qu'il a pas boudé. Alors, est-ce que c'est depuis l'arrivée de Poco? Je sais pas, mais je pense que c'est vraiment ce qui lui manquait. On en a parlé d'un point de vue athlétique aussi, où c'est vrai qu'il a l'air quand même assez frêle. C'est un joueur qui a certes 24 ans, mais qui est quand même assez grand. En règle générale, les joueurs techniques sont toujours assez bas avec le ballon. Ils ont un point d'ancrage assez bas. Là, c'est pas forcément le cas avec Marnies. Moi, j'aime beaucoup le joueur, honnêtement. Alors, est-ce qu'il va pouvoir aller au-dessus? Ça, je sais pas. Parce qu'encore une fois, je pense que malgré tout, athlétiquement, il lui manque peut-être encore quelque chose. Mais dans la mentalité, j'ai vraiment trouvé une différence entre l'année dernière et cette année. Maintenant, bravo à lui. On va voir ce que ça va donner.
C'était quoi ta question, Maxime?
La question, c'est-à-dire.
C'est un commentaire. Moi, j'ai une question à poser. Ouais.
C'était une question.
T'as des révélateurs, c'est les matchs de Champions League. Ouais. Sur les matchs de
il est devenu leader cette année.
Présent,
je trouve.
Et c'était très dur de le bouger.
Alors,
et contre les Anglais.
Bien, on fait une pause. Tu parles de la Ligue des Champions.
Oui, on fait une pause. Et dans un instant, tu poses ta question. Ouais, okay. C'est comme ça. Vous êtes trois, et puis on a un invité, donc il faut partager les questions. Dans un instant, tu seras prioritaire, Daniel. Reste avec nous, l'after, 20h, 22h46, RMC, à tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
Maxime Chano, Florent Gautreau est là, Daniel Riolo aussi, et notre invité, Damien Perrinel, désormais libre. Il a quitté l'AS Monaco. C'était pas en prison non plus, hein, surtout pas à Monaco. D'ailleurs, c'est intéressant. Souvent, Daniel, t'as mis en mauvaise posture pendant des années, en disant dans l'after, mais faut promouvoir Damien sur le banc numéro 1, faut l'essayer. Bon, t'as pas joué les tours, ça?
Alors, on va rétablir tout de suite les choses. En 6 ans, ce qui est d'ailleurs c'est vachement respectable de votre part, c'est que j'ai pas eu un appel.
Ah bon?
Pour avoir une source.
Ah bon, on était mauvais parce qu'on aurait dû le faire.
Non, on voulait pas profiter de notre amitié.
Non, mais ça fait.
C'est bon, vrai que Damien, moi je voulais respecter ça. Ouais. Vas-y,
question.
Daniel.
Et je veux une réponse concrète. Alors là, il faut vraiment que tu nous expliques ce truc-là. Lille, comme Lyon, comme Monaco, au moment où la Coupe d'Europe, ça s'est terminé, les résultats en championnat se sont améliorés. Quel est le mystère qui fait qu'on n'arrive pas à motiver des mecs pour être bons le week-end et la semaine? À pouvoir mettre la même intensité, à le même niveau de performance, le même niveau de concentration. Des gens qui ont l'air de choisir leur match. Ça a coûté énormément à Monaco cette année.
Mais ça a coûté, comme tu l'as dit, à Lille,
alors,
à Marseille,
pourquoi ça
à Lyon.
Comment vous gérez la semaine? Vous leur dites quoi? Il faut être concentré les deux fois par semaine? Pourquoi on n'arrive pas?
C'est simple, c'est que c'est une machine à laver, c'est rentant. C'est-à-dire que quand tu fais ton match de Ligue des Champions, déjà, bah, généralement, tu donnes encore plus parce que le niveau est plus élevé, donc tu donnes encore plus physiquement, mentalement, ça demande une débauche. Tu rentres le soir, tu rentres chez toi, il est 4h30 du matin. Le lendemain, tu viens à l'entraînement, tu fais juste un décrassage et t'enchaînes déjà mentalement sur le prochain match. Et peut-être que tu voyages aussi. Et c'est pas facile. Et c'est là où, alors tu vas me dire,
les grands clubs
y arrivent.
Comment font les autres clubs?
Mais tu fais. Et encore, cette année, on n'a pas été si mauvais que ça sur les matchs après un match de Ligue des Champions. On a gagné beaucoup de matchs. On avait l'avantage aussi, c'était de recevoir le match généralement après la Ligue des Champions. Et tout ça, ça t'aide. Mais après, bien sûr, c'est une exigence, c'est une intensité, une endurance mentale qu'il faut réussir à trouver.
Mais il faut les remotiver, les gars, quand ils ont fait un match contre une équipe un peu vedette. Mais en Europe,
le Real Madrid, par exemple, cette saison.
Et tu te retrouves à jouer le samedi, j'en sais rien, à Lorient, je ne sais où. Les mecs n'arrivent pas à comprendre que c'est important. Leur motivation, forcément, elle part à côté. Comme moi, quand en tournoi, un jour, je joue un 15-2, le lendemain, un 15-5, j'ai pas la même motivation.
Ah, non, je ne pense pas. C'est une histoire de motivation, si.
Je ne pense pas. Je pense pas que ce soit une histoire de motivation. Et encore une fois, je te dis, là, cette saison, même la saison dernière, je pense qu'on a vraiment performé après.
Oui, non, mais ça, d'accord, mais il n'empêche que quand Monaco, okay, la Coupe d'Europe s'est arrêtée, les résultats sont améliorés.
Moi, je pense que j'y verrais peut-être un autre facteur. C'est que tu regardes, on a fait des gros matchs cette année. On va jouer Marseille, on gagne contre Marseille. Je crois que le match d'avant, on gagne contre Lyon. Et derrière, on s'écroule contre le PFC.
Ah ouais, vous en prenez
contre 3 buts en 20 minutes du contre derrière. Toulouse. Contre Auxerre, qui étaient supposément des matchs qui étaient accessibles et qui étaient censés.
Et ça, c'est explicable. Et ça s'explique ou ça s'explique pas? Parce que nous, on a eu 1000 coachs cette année qu'on dit on comprend pas.
Parce que c'est.
On en a eu plein. De Zerbi disait on comprend pas.
Parce que pour faire.
Genesio, il a fait la gueule. Tout le monde, les mecs, on comprend pas. Donc si vous comprenez pas, donc on arrête, on comprend plus rien.
On veut faire l'avocat du diable. Alors c'est vrai qu'on est très critique avec l'AS Monaco. C'est vrai que cette 7e place, on attendait mieux. Mais s'il n'y a pas cette série de matchs, tu l'as dit, contre l'AG Auxerre, contre le Paris FC, contre Toulouse et même contre Lille, finalement, vous terminez pas mal et vous êtes pas loin de la 3e place. Donc en fait, c'est vrai que c'est assez paradoxal. À l'inverse des autres équipes où Lille, Lyon, à chaque fois qu'ils ont été éliminés, c'est vrai qu'ils ont retrouvé un peu de fraîcheur. Vous, ça a été complètement l'inverse. Je pense que c'est une histoire de préparateur physique parce qu'on sait qu'il y a eu ce problème aussi par rapport aux blessures.
Non, c'est un contexte. On va rendre hommage au célèbre philosophe qui est décédé, Edgar Morin.
Tout à fait.
C'est la.
Ce week-end.
C'est la pensée complexe. Ce serait trop facile d'isoler un facteur sur des contre-performances. Je pense que c'est un ensemble en réalité.
Vous avez été en contre-courant en fait des autres.
Ouais, c'est un ensemble. T'as peut-être ce facteur mental. Au bout d'un moment, t'as peut-être aussi un facteur athlétique. T'as eu peut-être un petit morceau de facteur sur les blessures. Et l'un dans l'autre, peut-être que t'as des joueurs qui ont dû trop jouer. Encore une fois, parce que t'avais des blessés. Peut-être que toi. Il y a pas que
explication en réalité. Mais ça, je pense que c'est quand même la réalité de tous les clubs aujourd'hui en Ligue 1. Paul Pogba, pour terminer avec toi, Damien, tu l'as vu débarquer à Monaco, tu l'as suivi son immense défi qui s'est lancé, il a raté son défi. Voilà. C'est raté. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je crois qu'on peut pas dire le contraire. Pas dire le contraire. Est-ce que tu crois toujours que Paul Pogba peut retrouver un semblant de haut niveau? On l'a vu sur les terrains, c'est très lourd, compliqué pour lui, ça fait mal aux yeux, mal au cœur.
Là encore, on va reprendre le contexte à l'époque où il signe à Monaco. Paul Pogba.
Non mais ça on le connaît d'ailleurs.
C'est important de le dire.
Oui mais on le sait Damien.
Et il joue pas pendant 2 ans et demi et derrière, ce qui va, je pense, l'aider maintenant, c'est qu'il trouve une régularité aussi bien dans l'entraînement que dans les matchs.
Mais Damien, vous y aviez tous cru. Thiago Scuro, il nous a fait la scène de je chiale dans le bureau et tout.
Il a dit c'est un pari.
Oui, bah donc voilà, c'est raté.
C'est un pari.
Et aujourd'hui, non, mais personne n'est responsable. Quand vous avez fait le pari, c'est perdu.
Le pari est perdu. Le pari est perdu. Non, parce que le pari, en réalité, il est en cours. Il est sur 2 saisons. Alors, et on va voir ce qui va se passer. Sur la fin de saison, je peux vous dire qu'à l'entraînement, ça commençait à ressembler.
Mais
si vous attendez à voir le Paul Pogba de 2018,
ça va être compliqué. C'est même pas ce qu'on attend, en fait.
Voilà.
Les Rolling Stones en tournée à 75 ans, on attend quoi?
Non, Paul,
c'est le retour de Céline Dion.
Paul, déjà, est obligé aussi, ça fait partie du personnel humainement. Top. Quelqu'un d'exceptionnel.
Non mais ça oui, on l'adore, il est fantastique.
Grand professionnel, on est avec aujourd'hui lui. C'est admiratif de voir l'investissement qu'il met pour revenir justement au niveau.
Ça c'est déjà, c'est bon à
savoir. Il y croit.
D'accord, très professionnel.
Et le boulot quand je dis au niveau, c'est un niveau Ligue 1 professionnel, avoir un impact sur une équipe de Ligue 1, il y croit. Et le rôle de tout l'entourage de l'AS Monaco, c'est d'aller au bout de ce rêve et de tout faire pour
qu'il y arrive. Ils vont le garder encore.
Ah donc il continue alors. L'idée c'est de continuer.
C'est ce que j'ai compris, c'est qu'il continue un an.
Ok. Non, moi, donc Philippe Luch, il va le garder et il va essayer de le faire jouer.
Philippe Luch.
Non, moi, ce qui m'a gêné, c'est quand il a joué en Ligue 1, vraiment son dernier match.
Sûr qu'on dise comme
sur
ça,
les appuis, sur les, il y a des scènes qui m'ont fait un peu de la peine. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'il y a du travail, mais après déjà tant de mois passés à travailler, donc à faire tous ces efforts-là, ce qui m'a gêné, c'est pas de pas retrouver le Pogba de 2018. J'ai vu des choses dans les appuis, dans les contre-pieds, je me suis dit, il y a encore, ou alors il y a encore beaucoup de boulot. ou alors de lui-même, mais je sais pas s'il a pas un gros doute sur le fait de pouvoir rejouer au plus haut niveau, quoi.
Laissez encore une fois, il va avoir une prépa complète. Il va avoir des entraînements qui vont s'enchaîner, et puis ça va revenir petit à petit, ouais.
Mais la réalité, c'est que le football, il a évolué. Est-ce que Paul Pogba est en mesure maintenant de pouvoir tenir le rythme? Moi, tu parlais d'un physique. Moi, quand je vois Paul Pogba, ouais, le football, il a changé. Quand je vois Paul Pogba arriver, alors il y a une histoire, en effet, il a pas joué pendant 4 ans avec ses blessures, ses suspensions. Mais quand tu le vois physiquement, quand tu vois les milieux de terrain actuellement en Ligue 1, et tu l'as dit, Flo, il peut plus courir. Ça a été un super joueur, on l'adore. Il a été exceptionnel. Paul Pogba, il n'y a aucune chance qu'il puisse revenir en Ligue 1.
Damien, merci d'être venu partager ton expérience monégasque avec nous. Le BEPF, tu valides dans un mois.
Exactement.
Sur le marché, il y a des touches pour un club Ligue 2, Ligue 1, quelque chose qui se passe là?
Première. Il y a l'eau qui commence
à frémir un petit peu. Et bien là, on t'appellera en revanche. Tu prends un club de Ligue 2 ou Ligue 1 pour avoir des infos. Merci Damien Périnet.
Merci Damien.
Dans un instant, on va recevoir un ancien arbitre, un figure de l'arbitrage en France. Gilles Vessière sera avec nous pour parler de son expérience. L'after continue avec Flo, avec Daniel et Maxime sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.